On poursuit l'exploration des facteurs d'éveil. Et puis ce soir, je vais vous parler du calme. Je trouve que ça colle droit bien à l'atmosphère du moment. Avec l'exercice de la méditation, au lieu que l'énergie soit toujours focalisée sur l'expérience, ce que je veux, ce que j'aime, ce que j'aimerais conserver, ce que je veux pas, l'énergie à un moment donné se pose sur l'espace et le silence. Et il y a quelque chose à l'intérieur qui devient tranquille et confiant. Et il y a une grande partie de l'effort dans l'exercice de la méditation qui consiste à calmer le mental. Parce qu'on est très habitué à commenter pratiquement tout ce qui surgit sous nos yeux, dans notre esprit. On l'attrape et puis on commente. On est souvent projeté dans le futur ou alors on revisite des situations passées. On est dans l'évaluation. C'est vraiment pas évident de juste contacter le moment présent et d'y rester. Et tout ce bavardage intérieur, ces pensées d'anticipation, d'inquiétude, tout ça, ça fatigue énormément l'esprit. Et il y a une forme de tension, ça crée une séparation en fait, parce qu'avec la pensée, je suis dans l'autre monde, je ne suis pas dans ce qui est en train de se passer là maintenant. Et puis, y a un calme qui est conditionné, ça veut dire que c'est là un moment et puis après ça change. Parfois l'esprit est agité, à peine on se pose sur la respiration que les pensées nous emmènent ici et là. Ça tourbillonne, il y a beaucoup d'énergie au niveau du mental, comme une cocotte minute en train d'être à ébullition. Et puis d'autres fois, l'esprit il est tout à fait calme, tranquille. On peut sentir la respiration, rester présent. Il y a peut-être des pensées qui arrivent, mais en fait on ne les attrape pas. Il n'y a rien qui est saisi ou identifié. Et là, c'est le repos complet pour l'esprit. Et dans ces moments-là, même si c'est des moments qui peut-être sont brefs et rares, c'est vraiment important en fait de reconnaître qu'il y a une absence de pensée, que juste maintenant c'est l'expérience du calme, et puis d'apprécier, vraiment se laisser sentir comment ça fait du bien en fait, quand l'esprit est comme ça au repos. C'est de cette façon-là aussi que la pleine conscience elle va se fortifier, en reconnaissant comment ça fait du bien quand l'esprit est calme. Mais si c'est tellement bienfaisant, alors pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué en fait à installer dans l'exercice? Eh bien, il y a peut-être une explication à chercher du côté de cette hyper-stimulation dans laquelle on baigne constamment. Dans la vie de tous les jours, on est exposé à vraiment beaucoup d'impacts sensoriels. Il y a beaucoup de lumière un petit peu partout tout le temps, même la nuit, il y a le mouvement du trafic, le bruit du trafic, il y a des paroles, des conversations dans la rue, dans le bus, dans le train, à la télé, à la radio, il y a toutes sortes de bips, d'alarmes, de sonneries qui constamment appellent notre attention, il y a des publicités, des affiches un petit peu partout autour de nous, les vitrines des magasins qui sont très colorées, très fournies. À la maison aussi, si on ouvre nos armoires, il y a beaucoup de nourriture, il y a beaucoup de vêtements, il y a beaucoup de matériel. on fait beaucoup de loisirs, on est dans voilà, cette hyperstimulation en continu. Du coup, ça demande pas mal d'efforts en fait d'installer le calme, de couper avec toutes ces sollicitations. Donc, permettre à l'esprit d'être au repos, ça demande vraiment qu'on casse avec nos habitudes, le fait d'être tout le temps occupé, d'avoir toujours des choses à faire, le fait d'être tout le temps exposé à ces stimulations, de tout le temps se projeter, on doit vraiment arrêter en fait, de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Nous arrêter aussi physiquement et puis quitter ce souci de bien faire, les préoccupations du quotidien, quitter toutes ces pensées qui tourbillonnent pour vraiment revenir dans l'ici et maintenant et puis rester avec simplement la respiration. Donc il y a un effort à faire vraiment pour rompre avec ces modes de fonctionnement habituels. Et puis peut-être qu'il y a aussi des conditions à l'extérieur à aménager. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'avoir autant, de faire autant, de parler autant. Peut-être qu'on peut faire plus simple et que ça peut amener déjà un peu de sérénité et de calme. Et puis dans l'assise, ce qui peut aider le calme à s'installer, c'est ce qu'on a fait au début, là, pendant la première méditation guidée. Le fait de focaliser sur tout ce qui change au niveau de la respiration. Voir que l'inspire, au début, il n'est pas pareil qu'à la fin. Sentir comment à la fin, il y a une espèce de tension quand les poumons sont pleins d'air. Et puis voilà, après, ça se vide à l'expire. Il y a ces deux mouvements. Ça soulève, ça s'abaisse. Toujours, ça change. Quand on se place à la pointe du nez, c'est vrai qu'on peut sentir que la qualité de l'air, elle n'est pas la même quand il entre dans les narines, quand il sort, là aussi ça change. Et puis il y a le fait qu'entre deux respirations, il y a une pause, voilà, ça c'est encore un autre changement. À un moment donné, ça ne bouge plus. Et puis quand on observe le souffle, on peut voir que parfois il est court, parfois il est long, parfois il y a un peu de contrôle dans la respiration, parfois c'est totalement relax, parfois c'est superficiel, parfois c'est profond, en fait tout le temps ça change. Donc ça peut nous aider à amener le calme dans l'esprit, de se lier à la respiration, en fait avec cette conscience de tous les changements qui arrive. Ça va faire que ça respire plutôt que c'est moi qui respire. Du coup, il y a peut-être un petit peu moins de contrôle que quand on est comme ça, focalisé uniquement sur les sensations dans le corps. Là, il y a plus cette idée de laisser faire le corps puis d'accompagner le changement de la respiration au fur et à mesure qu'il se produit. Et le calme peut s'installer. Donc il y a un calme qui est conditionné, c'est l'expérience du calme, et puis il y a un autre calme qui n'est pas dépendant des conditions, c'est celui qui fait que même quand l'expérience elle est pas calme du tout, même très agitée ou très désagréable, eh bien on peut quand même être là et rester immobile au milieu de toutes les énergies changeantes qui nous traversent. Cette forme de calme, ça a plus à voir avec l'attitude avec laquelle on accueille les choses qui se présentent. Et c'est surtout ça qu'on travaille avec l'exercice de la méditation. On apprend comment est-ce qu'on peut coexister de manière paisible et calme avec tout ce qui peut émerger dans l'instant, avec tout ce qu'on ressent, avec tout ce qu'on pense, avec tout ce qu'on sent. Donc, on apprend au fond comment est-ce qu'on peut être en pleine tempête et Restez calme et alerte. Il y a l'expérience et puis il y a comment l'esprit est disposé à recevoir cette expérience. Est-ce que c'est possible de rendre l'esprit disponible à ce qui est là? Restez calme et attentif au milieu de la tempête. Il y a de l'agitation peut-être, ou alors il y a de la honte, ou il y a de la culpabilité. C'est ce qui est. Alors comment est-ce que je peux m'ouvrir à cette expérience et rester calme, confiant avec ce qui est là? Qu'est-ce que je fais de cette expérience? Est-ce que j'en fais tout un drame, un monstre problème qui va me mener au doute, au désespoir, ou alors à la haine? Ou bien, est-ce que je peux cultiver la confiance pour rester calme en fait, avec l'expérience, même quand elle est désagréable? Accueillir les choses comme elles sont. Et plus on cultive la pleine conscience, plus on sera capable d'accueillir les choses avec calme et avec douceur. La pleine conscience, c'est vraiment cette capacité de voir, de contempler l'expérience avec une certaine objectivité et en étant en même temps au cœur de ce qui est en train de se passer. Donc il y a comme deux positions. Il y a en même temps une distance, puis en même temps une intimité avec les choses comme elles sont. C'est Ajahn Suchito qui dit « L'apparition des entraves et des éléments perturbateurs ne peut pas toujours être évitée. Ils font partie de notre monde et leur arrivée et leur fin suivent leur propre loi, indépendamment de notre approbation ou de notre réprobation. » Mais avec l'ancrage dans la pleine conscience, nous pouvons éviter d'être envahis ou perdus en nous. Nous pouvons répéter comme le Bouddha sous le Bodhi tree que Mara ne me déloge pas de cet ancrage. Mara, c'est l'ignorance, le tentateur, c'est cette petite voix qui nous fait croire que la vie, elle peut seulement être bonne. Et que tout va aller bien une fois qu'on aura ce qu'on aime. Mais c'est vrai qu'en général, quand l'expérience est désagréable, il y a une forme de mise à distance, une réactivité qui fait qu'on se ferme finalement à l'émotion qui est là, en train d'arriver, et qu'on se réfugie dans la pensée en cherchant à solutionner ce qu'on imagine être un problème. Et puis là, on commence à douter, on s'inquiète, découragé. Et ça, c'est une habitude mentale qui nous fait beaucoup de tort et qu'on doit travailler à abandonner. Les pensées négatives, c'est juste des pensées, elles sont conditionnées, elles sont subjectives, limitées, et puis elles changent. C'est pas obligé de leur donner tout le crédit. C'est pas parce que je pense que je vais pas y arriver que vraiment je suis pas à la hauteur. C'est le découragement, un moment de découragement, une expérience universelle qu'on fait tout ça à un moment ou à un autre. C'est pas ce qui me définit. En général, c'est quand on se saisit mentalement de l'expérience et puis qu'on croit ce que disent les pensées que les problèmes arrivent. Il y a une chose importante à comprendre, ce que Bouddha nous répète encore et encore, c'est que le bonheur ou le calme, c'est pas la bonne expérience. La libération, c'est pas l'expérience agréable. C'est vraiment de savoir accueillir les choses comme elles sont. C'est plutôt l'ouverture du cœur que la bonne expérience. Donc comment est-ce qu'on peut faire de chaque instant un cadeau ou une source d'enrichissement, plutôt qu'une bénédiction ou une malédiction. Donc le calme, en fait, il est toujours disponible, pas toujours en tant qu'expérience, mais toujours en tant que lien à l'expérience. Et quand c'est vraiment difficile, qu'on colle vraiment à nos perceptions, qu'il y a beaucoup d'identification à ce qu'on est en train de vivre, eh bien, ma foi, on sait que c'est le chemin. Parfois, on goûte aux fruits, et puis parfois, on est en chemin. Et c'est OK, c'est comme ça. Il y a des limites à accepter et à accueillir. La pleine conscience, c'est un chemin de connaissance. Et avec la pratique, on commence à connaître en nous la totalité de qui on est. La joie, la confiance, la sincérité, la bonté, mais aussi la réactivité, la colère, la tristesse, l'agacement. Ça fait partie du jeu, en fait. Toutes ces énergies, elles sont valables. On apprend de chaque situation. Toutes ces expériences, elles sont dignes de notre intérêt. Et elles peuvent nous amener plus de calme, en fait, plus de confiance, si on sait les accueillir. Donc quand on peut les accepter dans le champ de conscience, les inclure dans notre pratique, nous ouvrir, nous abandonner à ces énergies, qu'elles soient belles ou terrifiantes, ben là on peut toucher vraiment au calme. Et c'est important de voir qu'on est le seul responsable, en fait, de la création de notre monde, et que le monde, il a vraiment le poids qu'on lui donne. C'est la manière dont on se lie à nos émotions, en fait, qui va nous enchaîner ou alors nous libérer. C'est moi qui crée ma souffrance. Quand je suis comme ça, sous l'emprise du mental, prisonnière de ce que je crois que je devrais être, ou que l'expérience devrait être, ou qui je crois que je suis. Et je termine avec Eckhart Tolle. La plupart des gens restent toute leur vie prisonniers des limites de leurs pensées. Ils ne dépassent jamais un sentiment de soi personnalisé, construit par le mental et conditionné par le passé. Tout comme en chaque être humain, votre conscience comporte une dimension beaucoup plus profonde que la pensée. C'est votre essence même, on peut l'appeler présence, attention, conscience inconditionnée. Dans les enseignements anciens, c'est le Christ intérieur, votre nature de Bouddha. Découvrir cette dimension vous libère, ainsi que le monde, de la souffrance que vous vous infligez, de même qu'aux autres, lorsque le petit moi définit tout votre bagage et même votre vie. L'amour, la joie, l'expansion créatrice et la paix intérieure durable ne peuvent pénétrer dans votre vie qu'à travers cette dimension inconditionnée de la conscience. Si vous reconnaissez, même par instant, que les pensées traversant votre esprit ne sont que des pensées, si vous observez vos schémas réactionnels à mesure qu'ils se produisent, alors cette dimension émerge déjà en vous. C'est la conscience dans laquelle surviennent les pensées et les émotions. C'est l'espace intérieur intemporel où se déploie le contenu de votre vie. Et Eckhart Tolle, il dit aussi hein, qu'on n'est pas le contenu de notre vie, on est la vie. Donc en cultivant la conscience, au fond, on apprend à vivre la vie. Pas mal.